Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous voici pour cette troisième émission d'éclairage sur l'actualité mondiale. Il se trouve que hier, le président des États-Unis recevait son prix Nobel de la paix à Oslo, qu'il y a tenu un discours. Il me semble que nous avons là un premier thème de réflexion. Premier thème de réflexion parce que celui-ci s'inscrit avec peu de jours de délai après la décision qu'il a annoncée d'envoyer 30 000 hommes supplémentaires en Afghanistan. Cette décision, il aura pris quasiment une dizaine de mois pour l'arrêter. Et j'ajoute d'autre part qu'il a décidé en effet d'envoyer 30 000 hommes de plus en Afghanistan, mais en se fixant un calendrier de retrait, c'est-à-dire à partir de juillet 2011, dans 18 mois, nous commençons à retirer nos hommes. Alors, il me semblait qu'il y a là une analyse intéressante à faire de ce que devient cette nouvelle stratégie politique et militaire américaine. Selon ce que vous avez vu, ce que vous avez analysé, quels sont les éléments que vous pouvez confier aujourd'hui ?
Alors effectivement, c'est un très bon point de départ. La question de la stratégie en Afghanistan est débattue depuis en effet des mois avec une forme d'hésitation de la part d'Obama, mais tous les cercles d'experts, de spécialistes, etc., évidemment, ont débattu les divers scénarios. Et disons qu'en gros, il y en avait deux qui subsistaient. L'un qui était une forme de retrait et de laisser en somme que des forces absolument minimales. Et c'était un peu le scénario du vice-président Biden. L'autre, c'est le scénario McChrystal, donc le commandant en chef en Afghanistan, qui propose de sécuriser les grandes villes et les grandes places afghanes et à partir de là, d'essayer aussi de combiner cela avec une stratégie de conquête des peuples, c'est-à-dire d'accorder davantage d'attention aux populations et à leurs besoins. Ce qui, d'ailleurs, pose problème parce que ce sont des types de personnes de compétences, mais également des montants financiers qui sont d'un tout autre ordre que nous avons vu jusqu'ici. Alors, je crois qu'il faut être clair, n'est-ce pas ? Le premier scénario, c'était tout simplement un scénario de défaite. Et je me souviens moi-même, il y a quelques mois, en fait en septembre, à l'occasion d'une conversation, je me demande même si j'en ai pas parlé, c'est en tête avec Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Je lui avais demandé comment lui, puisqu'on parlait beaucoup de l'hypothèse d'une défaite américaine en Afghanistan, je lui avais demandé quelle était sa définition de la défaite et il m'avait répondu à sa manière assez brutale. En gros, pas besoin de donner de définition parce que tout le monde comprendrait immédiatement de quoi il s'agit. Oui. Alors l'autre, la voie choisie, est une voie, je pense que j'aurais probablement pris cette décision moi-même. Je crois que les États-Unis ne peuvent pas se permettre une défaite. Cela dit, elle est tout de même pleine d'incertitudes et j'ajouterai simplement que Obama, l'administration américaine, ne va pas forcément donner les moyens financiers qui devraient aller de pair avec cette stratégie. C'est une grande question. Je ne suis pas sûr que les idées soient très claires sur la stratégie de reconquête civile. Et enfin, comme vous l'avez dit, le calendrier de retrait pose problème parce que se fixer dès le départ qu'on va s'arrêter dans un an et demi, cela évidemment, et c'est une déclaration politique bien sûr, mais cela évidemment pose toutes sortes de problèmes. Ce qui veut dire que nous restons quand même, disons que le halo d'incertitude reste très épais.
Oui, et c'est en effet l'inquiétude que l'on peut avoir devant de cette stratégie. On voit bien qu'il s'agit d'un compromis. D'une part, je donne d'une certaine façon raison à mes chefs militaires en leur apportant les renforts qu'ils demandent. Je ne leur donne pas tout à fait ce qu'ils demandent, mais je leur donne presque ce qu'ils demandent. J'ajoute que quand on regarde dans le détail la composition des 30 000 hommes, il faut voir que là-dessus, nous avons en gros 16 à 17 000 hommes pour les unités de combat. Tout le reste, ce sont des états-majors et du soutien. Ce qui veut dire que l'arme américaine est extraordinairement lourde à déplacer. Nous sommes bien plus légers, nous Français, avec nos 3500 hommes, où nos éléments de soutien, de logistique, etc., sont bien plus légers que les Américains. Mais compromis encore, en effet, avec cette affaire de calendrier. Parce que on voit bien aujourd'hui que l'opinion américaine est de plus en plus réticente à l'égard de cet engagement en Afghanistan. Donc, il joue sur deux tableaux. Et il est vrai que quand on joue sur deux tableaux, il est difficile d'en prévoir l'issue.
Deux remarques. La première, c'est sur la proportion des forces combattantes et de l'ensemble des effectifs engagés. C'est en l'occurrence plutôt une bonne proportion. Je crois que, je ne vais pas me tromper en disant qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, je crois que le maximum de troupes françaises engagées, ça a dû être 500 000 hommes. Et les troupes combattantes, si je ne me trompe, devaient être qu'un petit nombre de dizaines de milliers. Donc il faut voir que ce problème que vous soulevez est un problème général. Oui. C'est un problème général. Alors, sur le second point, mais enfin, c'est un problème général, mais qui est quand même en effet essentiel, parce que cela veut dire que, et moi j'ai entendu des gens très sérieux expliquer que si on voulait véritablement être cohérent dans la stratégie de, comment on dit en anglais, nation building, ou plus exactement state building dans ce cas, c'est-à-dire de construction d'un État viable en Afghanistan, c'est peut-être des millions d'hommes qu'il faudrait envoyer avec des moyens financiers considérables, c'est-à-dire des choses qui n'ont strictement aucun sens. Merci. Alors, sur le second point essentiel que vous soulevez, qui est également éternel d'ailleurs, c'est la question de l'opinion publique américaine. Bon, c'est toujours le même scénario. C'est toujours le même scénario. Les Américains sont relativement prompts à intervenir militairement et à intervenir comme ils le font avec d'énormes moyens, une puissance de feu considérable. C'est le scénario qui d'ailleurs est un héritage qu'on pourrait expliquer par le souvenir de la guerre de sécession. Tout ça pour remonter là avec les pertes qui ont été terribles, n'est-ce pas, de cette guerre de sécession. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à maximiser la puissance de feu pour essayer de minimiser les pertes. Mais alors, très souvent, n'est-ce pas, ils se retrouvent ensuite dans une situation d'enlisement. Et ce n'est pas l'insuffisance ou l'incapacité de soutenir l'effort dans la durée qui les arrête, c'est l'opinion publique. C'est toujours ce que nous avons, c'est ce que nous avons d'ailleurs aussi en Irak.
Bien sûr.
Je crois que de ce point de vue-là, il y a lieu de se préoccuper, c'est-à-dire la difficulté de la cohérence dans la durée. Et on peut rappeler à cette occasion que beaucoup de gens ont fait l'observation d'ailleurs que le maintien à l'époque de la guerre froide de l'engagement américain dans l'OTAN est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est un maintien qui a été cohérent pendant plusieurs décennies. Mais quand on y réfléchit, pourquoi est-ce que ça a tenu? Parce que précisément, il n'y a pas eu de vrai combat. Et donc, il n'y a pas eu ce phénomène de l'enlisement, ce phénomène des cercueils
des retournements
rapatriés, etc., etc.
Absolument. Puisque vous parlez de l'OTAN, il est clair également que le président des États-Unis souhaite un renforcement de l'engagement des alliés de l'OTAN, donc des autres alliés des États-Unis. Ceux-ci, apparemment, sont prêts à fournir entre 6 et 7 000 hommes sur les 10 000 espérés. Et là encore, avec des problèmes d'opinion publique qui, à peu près partout dans ces alliés de l'OTAN, à l'exception de la France,
comme d'habitude,
L'opinion est de plus en plus réservée. Donc, ce qui est très intéressant.
Alors, ce qui est peut-être le plus intéressant à observer, si on prend un peu de recul, c'est qu'il y a toujours une exception française. Moi, je suis très frappé de cela et je trouve que c'est un sujet qui mériterait une discussion sociologique beaucoup plus approfondie, de ce que les chefs d'État ont finalement une assez grande latitude et que tout se passe comme si l'opinion publique française trouvait normal que des troupes soient engagées pour des causes même plus ou moins discutables, qu'on discute peu, et trouve normal qu'il y ait des pertes, etc. Et en effet, on voit que ce retournement s'est produit, par exemple, en ce qui concerne l'Irak, très rapidement en Espagne. José María Aznar avait fait probablement une erreur de jugement sur sa propre opinion publique. L'opinion publique est en train de se retourner en Grande-Bretagne même. Il n'y a pas que ce domaine, d'ailleurs. Si on parle des questions financières, ce serait aussi intéressant à explorer. Et ça résiste en France. Cela dit, je pense que le président de la République doit tout de même savoir que, indépendamment de ses contraintes financières, il y a quand même quelques limites à ne pas franchir.
Oui.
L'état de nos forces ne permet pas d'aller très loin.
Bien sûr.
Au-delà de ce que nous faisons.
Tout à fait. Peut-être un dernier point, ce qui est celui justement des crédits, du budget engagé dans ces opérations. En gros, si j'ai bien compris, 30 000 hommes, c'est 30 milliards de dollars supplémentaires dans la dépense. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que jusqu'à présent, le degré d'entraînement, d'engagement de l'armée afghane était faible parce que précisément les soldats et les cadres de cette armée afghane étaient sous-payés par rapport, évidemment très loin par rapport à nos propres soldats, mais même par rapport aux salaires pratiqués en Afghanistan. De sorte que je vois que l'on est en train d'améliorer ces traitements pour améliorer non seulement le recrutement, mais également empêcher les désertions. Donc, effectivement, dès lors que l'on veut faire reposer sur les forces de police et les forces armées afghanes l'effort à partir de 2011, déjà à présent, mais à partir de 2011, l'effort essentiel, on n'échappera pas à lui fournir des moyens et des moyens importants.
Oui, mais avec la difficulté que l'Afghanistan est curieusement probablement une nation, mais une nation très particulière parce que c'est une nation qui est à la base fondamentalement tribale, dans le sens le plus fort du terme. Et comment fabriquer une armée nationale qui soit vraiment une armée nationale avec ses rivalités de clans, d'ethnies, etc., c'est tout de même assez problématique. Je voudrais revenir rapidement sur un point, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, on évoquait les deux scénarios, le scénario de défaite, en somme, et le scénario McChrystal, revu à la baisse, avec le compromis à la baisse que nous évoquions. Sur le premier point, il faut peut-être y revenir un instant, parce que quand je parlais de défaite, c'est beaucoup plus en termes de perception, parce que l'idée des gens comme Biden, c'est de maintenir donc un minimum minimorum sur le terrain, mais en revanche d'exercer une surveillance très forte de façon à pouvoir intervenir ponctuellement si, par exemple, on voyait des traces de reconstitution de bases à la Al-Qaïda, etc. Il faut donc bien distinguer la perception de la défaite de ce que peut donner une stratégie de long terme. Personnellement, je pense que quoi qu'il arrive, à partir de 2011, il faudra de toute façon exercer en effet une surveillance extrêmement forte sur l'ensemble du territoire afghan et d'ailleurs sur d'autres territoires comme l'ouest du Pakistan pour éviter que ne se constituent des bases au sens large du terme susceptibles de nuire aux intérêts notamment occidentaux. Mais il y a un autre point qui me paraît important à rajouter. C'est qu'il y a derrière tout ça toutes les complexités moyen-orientales. On retrouve tout de suite l'Iran et le reste. Mais il ne faut pas négliger non plus le problème du Pakistan et donc de la relation entre le Pakistan et l'Inde. Je crois qu'il y a deux chancres, si vous voulez, dans la politique internationale. L'un dont on parle tout le temps et dont on parle régulièrement à juste titre, qui est l'affaire israélo-palestinienne et qui reste aussi dans un état d'immobilisme pathétique. Mais l'autre chancre, c'est le conflit indo-pakistanais. Parce que s'il était possible de trouver une solution à ce conflit, la scène changerait radicalement, y compris en Afghanistan. Il faut voir que pour le Pakistan, si vous parlez avec des Pakistanais, le front qu'ils ne veulent pas dégarnir, c'est le front avec l'Inde.
Absolument.
Et donc, les ressources que le Pakistan peut mettre sur le front occidental, qui est fondamental pour ces questions de l'avenir de l'Afghanistan, etc., sont tout à fait insuffisantes.
Absolument. Il faut rappeler, par exemple, que sur la frontière entre le Pakistan et l'Inde, l'armée pakistanaise entretient 400 000 hommes.
Exactement.
Nous allons changer de sujet. L'autre domaine, évidemment, majeur du point de vue diplomatique, ce mois de décembre, c'est la conférence de Copenhague. Le monde entier s'est précipité à Copenhague. On a entendu dire qu'il y avait là 12 jours pour sauver la planète. Ça évoque quoi pour vous ?
Ça évoque le court-termisme et les effets de manche qui vont avec. En réalité, cette affaire du climat est extrêmement intéressante à de nombreux titres, mais d'abord, à mon sens, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous essayons de négocier des accords qui touchent à la planète dans son ensemble et où il y a une certaine forme d'intérêt général mondial, bien que la notion d'intérêt général mondial soit extrêmement délicate à définir, comme la notion de bien public mondial, etc. Mais enfin, quelle que soit la définition que l'on donne à ces concepts, il y a, on sent bien, le bon sens montre bien qu'il y a quelque chose derrière tout cela, mais le bon sens montre aussi, et l'histoire montre aussi, qu'on ne sait pas négocier ce genre de choses. C'est tout à fait nouveau. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que pour arriver à la prise de conscience de ces problèmes, il a déjà fallu plusieurs décennies. Vous vous souvenez, comme moi, du Club de Rome de 1972, le rapport Meadows. J'ai moi-même d'ailleurs écrit en 1978 un rapport sur l'énergie dans le cadre du Club de Rome. La première fois, c'était absolument... Il y avait beaucoup d'erreurs de raisonnement, c'était approximatif, ce rapport Meadows de 1972. Il n'empêche que c'était la première fois qu'on avait posé les problèmes globaux, plus ou moins bien, quand, enfin, mais ils étaient posés. Bon, mais la conférence de Rio, par exemple, sur le climat, c'était 20 ans après. C'était, si je ne me trompe, 1992. Et là, nous sommes presque encore 20 ans après. Nous sommes donc là sur un rythme lent de l'évolution de la gouvernance. Vous savez que le thème de la gouvernance est un des thèmes qui m'est les plus chers. Je pense que nous devons admettre que pour arriver à dégager des consensus à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, sur des sujets aussi complexes, il faut beaucoup de temps. Ce qui veut dire que cette conférence de Copenhague, elle est extrêmement importante, mais je la vois davantage comme une étape dans un processus long. Et par conséquent, le slogan « 12 jours pour sauver le monde » n'a pas grand sens à mes yeux.
Si ce n'est qu'on a l'impression qu'il faut faire peur aux opinions publiques et à travers elles, aux dirigeants et aux grands dirigeants de ce monde, leur faire peur avec toutes sortes de prévisions catastrophiques ou catastrophistes, pour qu'il y ait effectivement un début de résultat. Au fond, ça n'est plus le bon Dieu qui fait peur, qui est redouté, mais c'est désormais le réchauffement de la planète, les conséquences que cela peut provoquer, les tsunamis et le reste. Mais finalement, politiquement ou diplomatiquement, on a un peu le sentiment que c'est une sorte de moyen que l'on s'est donné pour que, dans l'étape de cette longue prise de conscience, puisse effectivement avoir quelques résultats.
Je pense que c'est une manière d'opérer qui est assez générale. Mais je pense qu'au-delà de ces peurs un peu rudimentaires et plus ou moins manipulées, il y a une prise de conscience générale. Moi, je me souviens fort bien, dans les années 80, que les courants dominants d'opinion étaient relativement peu attentifs aux questions environnementales. Bon, et dans les pays socialistes, communistes, à l'époque, c'était absolument catastrophique. Bon. Mais si vous regardez aujourd'hui, par exemple, un pays comme la Chine, qui est assez prudent dans ses engagements, je ne dirais pas qu'il est nul d'ailleurs, mais qui est assez prudent dans ses engagements par rapport à Copenhague, mais dans la réalité de la politique chinoise, les questions d'environnement sont des questions prioritaires dans l'intérêt même, bien compris, de la Chine. Donc je pense qu'il y a un éveil général de la conscience environnementaliste qui va fort heureusement bien au-delà des slogans. Mais, je le répète, pour que tout cela débouche sur des modes d'organisation relativement coordonnés entre les principaux États, etc., tout cela prendra beaucoup de temps. C'est probablement inévitable.
Quand vous dites dans l'intérêt même de la Chine, je crois qu'on ne peut pas dire plus vrai, puisque en fait c'est la Chine qui va, elle aussi, avec son immense atelier, fabriquer tous ces produits, tous ces équipements qui vont s'adapter à ce nouvel environnement.
Absolument, et il faut voir que les Chinois aiment bien répéter, d'ailleurs, il y a un petit côté de coquetterie là-dedans, mais qui sont un pays en voie de développement, mais je crois que c'est en effet tout à fait juste étymologiquement, mais quand on regarde un petit peu en détail le développement de l'économie chinoise, on voit énormément de gâchis, de redondances, de pollution, etc., etc., et les Chinois, les autorités chinoises sont parfaitement conscients de ce problème et essayent d'y apporter remède.
Enfin, nous avons eu un premier Conseil européen à Bruxelles, présidé par le nouveau président de l'Union européenne, choisi, avec un consensus entre les 27, selon le traité de Lisbonne. Et donc, désormais, voilà ce président en place pour 2 ans et demi, si ce n'est 5 ans. Alors, ce monsieur Van Rompuy, est-ce que vous le connaissiez avant qu'il ne soit désigné ?
Eh bien, figurez-vous que oui, et que je l'ai même rencontré en tout petit comité, environ 10 jours avant son élection. Je vous dirais d'abord qu'il m'a fait une très bonne impression.
Tant mieux !
Il a fait une très bonne impression. Je crois qu'il est extrêmement malin, intelligent. Il faut voir que c'est très facile, n'est-ce pas, de se moquer, etc. Mais il est vrai que c'est un homme assez modeste, et qui a réussi à ramener le calme et faire l'unanimité, finalement, dans un pays qui est d'une grande complexité. On n'attache pas suffisamment d'attention à la Belgique. La Belgique est un pays très intéressant, oui. Et Van Rompuy a effectivement réussi à faire l'unanimité. Alors, donc c'est quelqu'un qui est très habile pour dégager des compromis un petit peu à la britannique, si vous dans la meilleure tradition du terme. D'autre part, il est polyglotte. Il faut bien voir que, et ça c'est très important pour l'avenir de l'Union européenne, que les gens qui prétendent faire une carrière européenne doivent être polyglottes. Et il y a extrêmement peu de Français qui le sont. Alors polyglottes, en l'occurrence, plus précisément, ils parlent flamand ou néerlandais, mais ils parlent parfaitement français, anglais et allemand. Et je crois que c'est important. Vous savez, on n'insistera jamais assez. Je pense que les Français qui veulent faire carrière, une carrière européenne, y compris les hommes politiques français, doivent apprendre les langues. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. D'autre part, comment peut-on imaginer que dans une Europe à 27, un président de Conseil européen soit autre chose qu'un homme qui cherche à établir des consensus? Il faut voir également que la machinerie de ce traité de Lisbonne est quand même très complexe, et c'est probablement inévitable. Il faut, là encore, je parlais du temps à l'instant à propos des questions environnementales, mais je pense aussi que pour purifier, stabiliser, améliorer les institutions européennes, il faut compter aussi avec le temps. Donc moi, je ricane moins que d'autres. Et pour tout dire, je ne ricane pas du tout sur la nomination de M. Van Rompuy. Et je pense que, effectivement, si on avait nommé une personnalité un peu flamboyante, on aurait risqué d'avoir aussi très rapidement des obstacles. Imaginez une personnalité inconnue en France, nommée président de l'Union européenne et tenant tête frontalement à M. Sarkozy. Est-ce qu'on peut imaginer un instant que ça pourrait marcher? Donc, je pense que finalement, ce n'est peut-être pas un si mauvais choix.
Eh bien, sur ces propos encourageants, merci. Et donc, nous allons nous retrouver le mois prochain.